Aux petits soins de nos clients dans plus de 14 pays d'Afrique, Suno Assurance vous fait profiter d'une assurance santé toute option, où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. La chevelure est pour beaucoup un élément clé de l'apparence. Des cheveux longs, courts, chevelure dense ou clairsemée. Entretenir ses cheveux, c'est pour certains un plaisir, pour d'autres une véritable corvée. Mais au-delà des considérations esthétiques et des soins apportés aux cheveux pour améliorer leur douceur, leur tenue, leur santé, comme celle du cuir chevelu, peut aussi constituer une véritable préoccupation en cas de chute, de démangeaison, à l'apparition de squames, de pellicules qui se remarquent à la racine ou sur les vêtements, des problèmes de cheveux, pour certains temporaires, pour d'autres définitifs. En tout cas, des préoccupations qui méritent sinon des solutions, au moins des explications. Cheveux abîmés par des produits trop agressifs, une calvitie consécutive à la prise de certains traitements, des coiffures par exemple, des tressages, tissages, beaucoup trop serrés, tendus, qui ont un impact direct sur l'implantation. Alors, on va le constater, hein, il y a des gestes à éviter, certaines mauvaises habitudes à perdre et peut-être assumer davantage de naturel. Et pour répondre à nos questions avec nous en studio, docteur Philippe Assouli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dermatologue spécialiste du cuir chevelu au centre Saboureau de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et tout à l'heure, nous allons retrouver en ligne de Guinée le docteur Mohamed Massiré Souma, dermatologue vénérologue au service de dermatologie MST du CHU Donka de Conakry. Santé des cheveux, on attend bien sûr vos témoignages et vos questions au 33 84 22 75 et sur la page Facebook de l'émission.
Priorité santé sur RFI.
Car bien sûr, pendant l'heure qui vient, on va donner une large place aux questions des aux auditeurs de Priorité santé. Mais on va commencer, si vous le voulez bien, docteur Assouli, par aborder la question de la densité de la chevelure. Pour beaucoup de gens, hein, c'est un vrai problème, une préoccupation. On dit comment avoir plus de cheveux, pas de trous pour certains qui disent j'ai des véritables trous sur le crâne. Qu'est-ce qui détermine, docteur Philippe Assouli, que l'on ait une chevelure plutôt abondante ou plutôt clairsemée?
Alors il y a deux choses. Il y a la densité en tant que telle, c'est-à-dire le nombre de cheveux au centimètre carré, et puis il y a l'épaisseur du cheveu. Si le cheveu est fin et qu'il y a beaucoup de cheveux, ça fait finalement assez peu de cheveux qui couvrent le cuir chevelu. Sur une peau d'ascendance africaine, les choses sont particulières puisque à la fois la densité de cheveux est plutôt plus faible que sur une peau d'ascendance européenne, mais pas mieux sur peau asiatique. On est à peu près la même chose que sur peau d'ascendance africaine. Alors je suis très général parce que selon les pays, ça va être différent. Et selon les mélanges de population. Et par contre, lorsqu'il y a un manque de cheveux chez quelqu'un qui est d'origine asiatique, ça se voit tout de suite, alors que chez quelqu'un d'ascendance africaine, plus le cheveu est crépu, plus ça va masquer, puisque le cheveu va couvrir une plus grande surface. Néanmoins, on passe parfois à côté de certains diagnostics, où les gens, on leur dit, bah, finalement, il n'y a pas de problème, parce qu'on ne voit pas venir une chute de cheveux dès l'instant où les cheveux sont crépus. Et l'affinement des cheveux est le plus difficile à juger. Si on regarde par exemple une alopécie dite androgénique, c'est-à-dire la chute de tout un chacun qui couvre le sommet du cuir chevelu, que ce soit homme ou femme, ça se voit très bien sur des cheveux raides et beaucoup moins sur des cheveux frisés ou plus ou moins bouclés. Cette masse de cheveux, au cours de la vie, va plutôt quand même en diminuant. Quoi qu'on fasse, et sous l'influence après de différents facteurs, que ce soit les traumatismes, que ce soit les hormones, que ce soit des carences, on va avoir éventuellement moins de cheveux au cours de la vie.
Vous employez le terme de traumatisme, mais pour que les auditeurs et les auditrices comprennent bien, on parle là de quand on fait des coiffures, quand on tire dessus, mais ça peut être aussi des traumatismes d'origine chimique?
Alors, tous les traumatismes... Alors, traumatisme psychologique, non, on est d'accord, on oublie ça. Traumatisme, de manière générale, c'est-à-dire des traumatismes physiques, en gros, tirés sur les cheveux. Traumatisme chimique, les produits de défrisage. Et traumatisme thermique, le fait de chauffer les cheveux. Alors tout ça peut déclencher une alopécie, un manque de cheveux ou des cheveux qui sont cassants.
Tout à l'heure, vous disiez chez les hommes, chez les femmes, on a quand même le cliché des hommes qui perdent davantage leurs cheveux, peut-être d'ailleurs plutôt en Europe d'ailleurs. Est-ce que c'est une réalité? Les hommes sont plus malchanceux en la matière ou c'est à égalité de genre?
C'est à peu près égalité de genre. Il n'y a pas de chiffre réel parce qu'en fait, il n'y a pas blanc ou noir. Dans le sens où il y a un manque de cheveux ou il n'y a pas de manque de cheveux. Au cours de la vie, parfois à l'âge de 12 ans ou de 18 ans ou de 25 ans, commence un certain degré de diminution des cheveux sur le sommet du cuir chevelu, que ce soit homme ou femme. Et simplement, à un moment donné, donc il va y avoir plus ou moins de manque. À un moment donné, les gens vont consulter, une femme va consulter par exemple, parce que elle se dit « Oh là là, mais c'était pas du tout comme ça avant », et ça va être parce qu'il y a eu une chute diffuse, par exemple après un accouchement. Mais c'est pas l'accouchement qui va être responsable, il va être responsable d'une chute brutale. La chute progressive qui s'est faite tout au long de la vie ne s'est révélée que à l'occasion de cette chute diffuse. Mais pour autant, elle était présente auparavant.
Et d'un point de vue scientifique, c'est quoi le facteur d'explication, docteur Philippe Assouli? Sont les hormones pour expliquer ces différentes phases de la poussée ou de la chute capillaire?
Les hormones rentrent en ligne de compte de manière importante dans la chute de cheveux, mais on n'a pas forcément un taux d'hormones anormal. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un taux d'hormones anormal, il va y avoir d'autres signes. Et on va être alerté par l'existence de signes que l'on appelle d'hyperandrogénisme, d'excès d'hormones masculines, c'est-à-dire une acné, une hyperséborée, c'est-à-dire une peau, des cheveux très gras, une hyperpilosité, mais sur peau noire, il y a facilement une pilosité qui augmente, mais là, elle va croissante, et éventuellement des irrégularités du cycle menstruel s'il n'y a pas de pilule pour qu'on s'en puisse en rendre compte. À l'opposé, donc, pendant la grossesse, la femme baigne dans les œstrogènes et dans ce cas-là, ça bloque tous ces processus-là et on va avoir plutôt une croissance des cheveux. La phase de croissance des cheveux, la phase dite anagène, la phase pendant laquelle les cheveux s'allongent, devient absolument colossale.
Et quand justement certaines femmes ont l'impression de perdre leurs cheveux après un accouchement, c'est parce que cette hyperactivité s'estompe?
Parce que là, à ce moment-là, il y a une perte de ces œstrogènes et tout ce qui a été gagné, finalement, va être reperdu. On redevient à un stade normal, entre guillemets, plus éventuellement, il va y avoir d'autres choses. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une perte de poids, un régime qui est fait à ce moment-là. Il va y avoir une carence en fer parce qu'on va s'occuper plus du bébé que pendant la grossesse de la maman. Et donc, tout ça va être corrélé. Puis après, il y a éventuellement une mise en route d'une pilule qui peut être pas très bonne pour les cheveux. Donc tout ça peut rentrer en ligne de compte. Il faut voir qu'est-ce qui fait que, si cette chute dure au-delà de 3 mois après l'accouchement, quels sont les facteurs qui peuvent faire qu'elle se pérennise.
Et vous le soulignez donc, certains médicaments qui peuvent justement jouer un rôle dans la chute des cheveux. On a bien sûr l'image de la chimiothérapie, mais il y a d'autres traitements qui peuvent aussi avoir un rôle.
Oui, un certain nombre de médicaments peuvent déclencher des chutes de cheveux. Il y a des médicaments qui, à tous les coups, déclenchent une chute de cheveux, les produits de chimiothérapie. Certains traitements, comme des produits qui agissent sur l'épilepsie ou des médicaments anticoagulants, peuvent parfois déclencher des chutes de cheveux, pas du tout dans tous les cas. Et puis, tout ce qui est hormonal va pouvoir rentrer en ligne de compte. À l'opposé, maintenant, quand on regarde une mention pour les médicaments, tous les médicaments vont marquer dans un coin possibilité où ont été décrits des chutes de cheveux, ce qui n'a éventuellement aucune espèce de valeur. C'est-à-dire que la pathologie pour laquelle a été prescrit le médicament peut être responsable d'une chute de cheveux, ou de la même manière, on va dire, ben voilà, vous avez du cholestérol, il va falloir faire un régime et je vous donne tel médicament. C'est plutôt parce qu'on a fait un régime strict qu'il y a eu, à ce moment-là, une chute de cheveux qui est apparue, et pas le médicament qui en est responsable.
Alors, on parlera aussi pendant cette émission, bien sûr, de l'entretien de la chevelure. Docteur Philippe Assouli, tout de suite, un petit détour par un salon parisien.
Priorité santé sur RFI.
Avec donc ce reportage signé Fabrice Vuimeau, il s'est rendu au salon de coiffure Joanne Lidy. C'est dans le 13e arrondissement de Paris. Salon spécialisé donc dans la coiffure des cheveux crépus.
Je m'appelle Jessica, je viens chez le coiffeur 2 fois par an pour me faire mon wave. Donc c'est Lydie qui m'a fait connaître le wave et du coup c'est vrai que c'est une bonne alternative parce que on sent bien que ça abîme pas comme le défrisage, mais ça permet quand même de l'assouplir et donc le coiffage est plus facile.
Ah non, la moitié. Pas pour ceux qui sont sur le côté. Je m'appelle Janika.
Vous êtes venue pour une coiffure particulière ?
Pour couper, en fait.
Juste à ras, couper ?
Ouais, alors j'ai fait des défrisages pendant des années. Et du coup, j'ai plus envie d'en faire. Et là, comme j'arrivais pas trop à trouver une solution qui me convenait, j'ai tout coupé. Je les mouille et puis je mets soit du beurre de karité en général. Et le minimum de produits, en fait. Ouais. Pour avoir fait des défrisages, ça abîme le cuir chevelu. Enfin, c'est quand même... c'est des produits chimiques. Hein,
Non, faut pas dire.
Enfin, il y en avait... Non. Certains... Si, plus maintenant, non, ça s'est amélioré. Non. Mais quand les premiers que j'ai fait, c'était...
Non. Plus le temps que les défrisages existent. C'est parce que vous n'avez pas fait un produit adapté ou que vos cheveux,
ne supportent pas.
Vu la texture que vous avez, ne supportent pas le produit. Mais il ne faut pas dire ça.
Non, parce qu'il y en a qui m'ont... Les derniers que j'ai fait, ça allait, mais... Bon, en tout cas, voilà, j'utilise un minimum de produits. Moi, ça me convient.
Alors, moi, je suis Lydie, l'ancienne patronne du salon. C'est mon fils qui a repris, Joanne. Et je suis coiffeuse depuis 1969.
Ça fait une longue expérience.
J'ai enseigné la coiffure pendant 26 ans. Mais à l'époque, les gens se soignaient beaucoup plus les cheveux.
Qu'aujourd'hui,
oui. Aujourd'hui, avec Internet, tout le monde connaît tout, tout le monde sait tout. Voilà.
Vous trouvez qu'on ne prend plus certaines précautions aujourd'hui ?
Non. On trouve tout sur Internet et tout le monde est coiffeur. Donc, personne ne sait qu'on ne fait pas tel produit par rapport à tel cheveu, par rapport à tel médicament, à telle pathologie.
Parce que ici, l'usage, c'est d'utiliser des produits adaptés aux cheveux.
Adaptés aux cheveux. Chaque cliente a son produit, a sa crème, a son shampoing, en fonction de son cuir chevelu et de son cheveu. Il y a beaucoup de critères chez moi, c'est-à-dire que si une cliente est malade, tout dépend de ce qu'elle a, je ne la coiffe pas. Si elle attend un bébé, si elle est dans les derniers jours, je peux lui faire un shampoing à la limite, c'est tout.
Mais
parce que quand on attend un bébé, on ne doit pas se défriser. Hein? On doit prendre des précautions d'usage en fonction du bébé. Maintenant, les gens ne respectent pas ça.
Quels sont les conseils majeurs que vous donnez pour la santé des cheveux afro?
D'abord, il faut un diagnostic profond, une discussion profonde avec la cliente avant de décider ce qu'on va faire, ce qu'on conseille, etc. Tout dépend de l'état de la cliente. À ce moment-là, je peux faire un diagnostic pour lui dire de mettre ci, ça, ça. Après, je dis tout le temps... C'est quand on se réveille le matin, qu'on touche ses cheveux, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut qu'on trouve la solution. Et la solution, c'est qui ? Même si on a regardé Internet, on a tout fait sur Internet, on retourne chez le coiffeur. Voilà. Mais maintenant, je ne dis pas que je suis mieux qu'une autre, mais ce que je sais, c'est qu'il faut s'occuper de ses cheveux. C'est la priorité.
Merci, au revoir.
Reportage signé Fabrice Vimeau. Alors, petite explication pour les non-initiés. Je me suis renseignée, Technique Wave, c'est un défrisage léger qui atténue le frisage naturel des cheveux crépus. En tout cas, on a l'impression, en écoutant ce reportage, docteur Philippe Assouli, que c'est pas toujours évident pour les clientes d'avoir des informations complètement transparentes sur la nature des produits qu'on met sur leur tête.
Oui, parce qu'en fait, on est passé de quelque chose qui était de la soude initialement à d'autres produits qui sont censés être plus doux, etc. Et donc, on fait semblant d'avoir des produits beaucoup plus doux, alors même s'ils sont effectivement mieux dosés, mieux paramétrés, en tout cas quand c'est fait dans un salon. Néanmoins, le fait de déformer le cheveu, de passer de quelque chose qui est frisé ou bouclé à quelque chose qui est droit, obligatoirement va léser la tige pilaire, c'est-à-dire le cheveu en tant que tel.
Est-ce qu'il y a certains produits qui sont interdits, malgré tout utilisés ? Et un conseil très concret, dire à celles ou ceux qui nous écoutent, si vous voyez tel ou tel nom sur un pot de crème, un pot de baume, un pot de produit pour la chevelure, eh bien il faut vraiment éviter. Est-ce qu'il y a des produits, justement, qui sont à bannir ?
C'est difficile de dire ça, parce qu'en fait, le plus souvent, on va avoir dans ce cas-là des produits qui sont cachés, plutôt que des produits qui sont ouvertement dits. Donc on va avoir des noms avec des choses qui sont assez attirantes d'une manière ou d'une autre. Et puis la composition ne sera pas la bonne composition qui est effectivement dedans. Et donc on a régulièrement des produits qui sont supprimés. On essaie de trouver des usines dans lesquelles ça se fabrique. Et on est dans le, comme pour les faux médicaments, dans des trafics d'une manière ou d'une autre, avec des gens qui en sont victimes.
Alors on va tout de suite donner la parole aux auditrices et aux auditeurs de l'émission.
RFI.
Et on part tout de suite pour le Bénin, pour Parakou, où l'on retrouve Rafiat. Bonjour Rafiat.
Oui, bonjour.
On vous écoute Rafiat.
Ok, moi j'ai une question. Mm-hmm. Depuis 2 ans, j'ai coupé mes cheveux et j'ai commencé avec les cheveux crépus. Mm-hmm. Donc je ne défrise plus mes cheveux et j'utilise uniquement le beurre de karité naturel, auquel je n'ajoute rien. Mais malheureusement, je vois que chaque fois mes cheveux se cassent beaucoup. Même quand je me tresse, je m'arrange pour que la tresse ne dure pas sur ma tête. Mais quand je défais, chaque fois, ça se casse beaucoup. Je voudrais savoir quelles précautions faudrait prendre.
Pour ne plus voir cette chevelure se casser, Rafiat, cette question, docteur Assouli, est-ce que le fait de s'être défrisé pendant longtemps, ça va altérer la qualité du cheveu, même quand il repousse?
Non, normalement, le fait de défriser le cheveu a une action sur la tige pilaire, donc ce qui est après la naissance du cheveu, ce qui est au niveau au-dessus de la peau, et ne change pas ce qui se passe à l'intérieur. Néanmoins, il y a rarement des frisages seuls, c'est-à-dire que souvent on va avoir association avec des tractions ou éventuellement du chauffage. Et dans ce cas-là, on a, comme si on regarde beaucoup de femmes d'origine africaine, cette chute de cheveux qui est devant au niveau du front, avec ce recul, on a à la fois les produits défrisants qui sont rentrés en ligne de compte, et puis toutes les tensions qui ont pu être faites depuis l'enfance. Et tout ça crée une alopécie, donc un manque de cheveux localisés. Donc les produits défrisage participent à ce manque, mais ne sont pas uniquement à l'origine.
Donc la question de Rafiat au niveau maintenant de l'entretien de cette chevelure, on va dire cassante, qu'est-ce qu'elle peut faire ?
Tout traumatisme peut favoriser une casse des cheveux. S'il y a une casse, c'est qu'il y a un traumatisme d'une manière ou d'une autre. Soit c'est une friction, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, je sais pas moi, le frottement sur l'oreiller qui va, du fait que le tissu est en coton, créer des lésions. En fait, ce qui s'abîme, c'est la courbure. On a, faut imaginer un serpent que l'on plierait en quelque sorte, et donc sur la partie externe, là où il y a la zone où les écailles vont se soulever, le cheveu correspond à peu près à ça, c'est ce qu'on appelle la cuticule, on va perdre de l'eau, l'eau qui est dans le cheveu, on va avoir des pertes d'écailles, et le cheveu qui va s'abîmer. Ce qui est abîmé ne peut pas se récupérer. Donc toute lésion avance progressivement le long du cheveu en se lésant de plus en plus.
Ça veut dire que les produits qui nous promettent de réhydrater nos cheveux, c'est mensonger ?
Ça veut dire que ça permet de maintenir comme ça peut l'eau qui est à l'intérieur, mais ça ne va pas changer radicalement les choses. Ça reste une couverture à l'extérieur. Il n'y a aucune réparation possible.
Et sur ce que fait aujourd'hui Rafiat avec le beurre de karité, c'est plutôt quelque chose de bien ?
Parmi les produits qui ont un effet dit hydratant, on a tout ce qui est gras, c'est le beurre de karité. Après, il va y avoir des produits qui sont beaucoup moins bons, que ce soit la paraffine, que ce soit la lanoline, etc. On va avoir des produits à base de silicone, qui sont d'autres façons de prendre en charge, ou des huiles carrément, qui sont encore moins bonnes, puisque là, ça va venir sur le cuir chevelu, et ça sera mauvais pour le cuir chevelu.
Donc le beurre de karité, c'est plutôt parmi les meilleurs
si
produits.
Si c'est un vrai beurre de karité, il n'y a pas de problème. Oui.
Voilà Rafiat pour cette réponse du docteur Assouli. On vous souhaite une excellente journée à Parakou. On va partir tout de suite pour la République démocratique du Congo. Kinshasa, avec Lisette qui est en ligne avec nous. Bonjour Lisette.
Bonjour RFI.
On vous écoute Lisette.
Oui, alors là, il s'agit de ma mère. Mmh. Ça fait à peu près plus de 30 ans qu'elle a perdu ses cheveux sur les tempes devant. Elle a eu à faire des tresses, je devais avoir 1 an ou 2 ans, elle m'a dit. Et quand elle a défait ses tresses, tous ses cheveux devant sont partis. Et les cheveux n'ont plus jamais repoussé. Elle a essayé plusieurs choses comme de l'ail, produits naturels comme produits chimiques. Rien n'y fait, les cheveux ne repoussent plus. Alors je voulais savoir si après autant d'années, est-ce que ses cheveux peuvent repousser ou pas, et savoir si ça peut être héréditaire. Le fait de perdre les cheveux comme ça.
Est-ce que vous-même, Lisette, vous tressez vos cheveux, vous les tissez en effectuant justement ces actions un petit peu de tirer, ce qui risque un petit peu d'arracher sur certaines zones du crâne ?
Non, moi je ne le fais pas tellement. Justement par peur de les perdre comme elle, alors j'évite.
Vous avez plutôt adopté une coiffure naturelle ?
Oui, naturelle, coiffure naturelle. Je ne défrise pas, mes cheveux sont naturels et je fais des coiffures naturelles aussi.
Alors, cette question de Lisette, double question, faire revenir les cheveux perdus il y a très longtemps, le problème de sa maman, et puis la question de l'hérédité. Est-ce que si sa mère a subi ce traumatisme, elle-même est susceptible d'avoir aussi des pertes de cheveux comme ça assez conséquentes ?
Alors pour sa maman, dès l'instant où il y a eu une alopécie, c'est-à-dire ce manque de cheveux qui dure depuis longtemps, qui est symétrique, on est très très probablement dans une histoire d'alopécie traumatique. Et dans ce cas-là, il y a une disparition des follicules pileux ou bien un remplacement par des cheveux qui sont de plus en plus fins, presque duveteux, qui ne pourront pas s'agrandir ou s'épaissir. Sous traitement par minoxidil, qui est le médicament local, qui peut augmenter le calibre des cheveux, on aurait éventuellement une petite amélioration, mais tellement modeste, avec tellement de risques d'avoir une augmentation de la pilosité, que ça ne mérite pas d'être débuté à mon sens, d'autant que le produit n'a d'effet que suspensif. Donc dans ces cas-là, la seule option serait de greffer des cheveux, c'est-à-dire de prendre des cheveux sur une autre zone et de les planter dans les endroits où c'est manquant, avec évidemment le coût de ce type d'intervention. Pour ce qui concerne
Lisette
en tant que telle, il n'y a pas d'hérédité pour ce genre de problème, sauf si les habitudes culturelles sont les mêmes. Et d'autre part, plus le cheveu est frisé, et plus il est traumatisable. Donc le fait d'avoir une ascendance avec des cheveux qui sont très 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 frisés, fait que, si c'est le cas, il y a plus de risques que chez quelqu'un qui a des boucles moins serrées d'avoir des cheveux qui s'abîment facilement. Donc s'il n'y a pas, alors c'est, ce qui me gêne, c'est quand vous dites, Lisette, que vous le faites pas trop, il faudrait qu'il n'y ait pas du tout de tension pour qu'on soit moins à risque. Chaque tension peut déclencher un peu d'alopécie, avec une prédisposition plus ou moins importante individuelle. Lorsque ça fait mal après avoir mis des tresses, évidemment c'est très mauvais. Et ça, de fait, même chez l'enfant, on peut avoir quelque chose qui devient définitif rapidement. Mais même si ça ne fait pas mal, mais que régulièrement, il y a un certain degré de tension, on risque d'avoir une diminution. Donc, c'est bien d'avoir laissé les cheveux naturels. Il faudrait essayer qu'ils soient tout le temps naturels, même dans les circonstances où vous auriez aimé avoir des cheveux tressés.
Voilà, Lisette, restez vous-même, restez naturelle. On vous souhaite une excellente journée à Kinshasa. On part de l'autre côté du fleuve Brazzaville, Congo-Brazza, avec Marielle. Bonjour Marielle.
Bonjour.
On vous écoute Marielle.
Oui, moi j'ai un petit souci avec ma tête. Mm-hmm. Aujourd'hui, pas de solution, bourré des pellicules. Donc... j'ai essayé pas mal de produits pharmaceutiques et des astuces naturelles. Je n'arrive pas à trouver une solution. Donc, le défrisage, je défrise rarement les cheveux. Donc, le tissage, pas moyen de mettre un tissage ou bien tresser les mèches. Je ne peux pas. Donc, je préfère laisser ma tête comme ça, cheveux ouverts. Donc...
Votre problème, ce sont donc ces pellicules. Vous dites, j'ai utilisé pas mal de produits pharmaceutiques. Vous avez employé quoi? Des lotions, des shampoings? Qu'est-ce que vous avez fait?
Des shampoings
anti-pelliculaires.
Anti-pelliculaires, bien sûr. Oui.
Et vous parliez de produits naturels. Vous avez essayé quoi?
Huile d'olive mélangée avec des fois du miel. Des petits trucs de jus d'oignon et tout, mais jusqu'à aujourd'hui, pas de solution. Donc ça me dérange, quoi.
Ça vous dérange parce que c'est inesthétique? Est-ce que ça vous démange?
Oui, ça démange.
Ça démange aussi.
Ça démange. Je ne peux pas faire 2 jours, 3 jours avec des tresses. Je ne peux pas faire 1 semaine avec un tissage. Impossible.
Parce que ça, à ce moment-là, les pellicules se voient trop et c'est à la limite douloureux parce que vous grattez.
Gratter chaque fois, j'ai les doigts sur la tête, il faut gratter des fois, ça me gêne devant les gens et tout. Donc.
Voilà, ce problème de Marielle, docteur Philippe Assouli, qu'est-ce que vous pouvez lui dire justement? Parce qu'apparemment, elle veut faire ses coiffures, elle ne peut pas le faire en raison de ses pellicules récidivantes.
Alors, sur cheveux crépus, on a plus de sébum au niveau du cuir chevelu, donc du gras, et qui remonte moins. Donc les cheveux sont plutôt secs et avec un maintien de ce sébum. Et le problème, c'est que si on lave pas très souvent les cheveux, ce sébum est l'aliment de certains champignons qui déclenchent les pellicules. Cette flore qu'on a au niveau du cuir chevelu, comme on aurait une flore dans une forêt, fait que le champignon se développant, qui n'est pas un champignon méchant, c'est pas celui qui donne des teignes, mais ce champignon qu'on héberge tous devient plus abondant, déclenche l'état pelliculaire. S'il y a des pellicules, ça augmente la prolifération de ce champignon et le cercle vicieux se met en route. Donc il faut laver les cheveux assez souvent, ou plutôt laver le cuir chevelu, il ne faut pas faire de la mousse comme à la télé, hein. Le but c'est de nettoyer la base pour supprimer ces champignons. Et puis, il faut éviter les produits qui vont avoir un effet, au contraire, graissant. L'huile d'olive, c'est un milieu de culture de ce champignon, donc c'est pas bon, même mélangé avec du miel. Il y a différentes, il y a une prédisposition par ailleurs chez les personnes d'ascendance africaine à ce que l'on appelle la dermite ou dermatite séboréique, c'est-à-dire cet état pelliculaire qui démange et qui déclenche éventuellement des rougeurs. Alors sur peau noire, les rougeurs c'est un peu simplement grisâtre sur la bordure par exemple du cuir chevelu, et donc il y a l'association démangeaison, pellicule et rougeur. Donc ce problème de pellicule est un problème à entretenir en permanence. Si on relâche, ça revient, ça ne peut pas décider qu'il n'y aura plus de champignons dans la forêt. C'est la même chose. Donc il faut utiliser un antipelliculaire. Si le premier antipelliculaire n'a pas fonctionné, on essaye une autre molécule. Donc il faut regarder la composition. Quel est le principe actif? Ça peut ne pas marcher avec le premier. Il y a 5-6 molécules différentes. Voir quelle est celle qui est efficace. Laisser le temps de pause qui est demandé, qui peut être pour certains produits 1 minute. Pour d'autres, ça va être 5 minutes. Bien rincer ensuite, avec une eau pas trop chaude. Et puis faire un shampoing 2 ou 3 fois par semaine. Alors ça peut paraître beaucoup, mais lorsque les cheveux sont des cheveux nappis, naturels, en principe on a beaucoup moins de difficultés à laver les cheveux que sur des cheveux qui sont avec des tresses et qui vont thésauriser tout ça. Dès l'instant où vous mettez un tissage ou autre, vous enfermez, vous créez une cocotte minute, et ça augmente la prolifération de ce champignon et des pellicules. Donc on est coincé.
Alors moi j'ai 2 questions par rapport à ce que vous venez de dire. D'abord, ces produits antipelliculaires, ils se vendent exclusivement en pharmacie ou on y a aussi accès en supermarché, hein, parce que c'est très concret.
Il y a des produits qui sont en supermarché.
En supermarché, donc peut-être un petit peu moins cher, c'est aussi important. Et puis quand on a un problème comme ça qui dure depuis longtemps, est-ce qu'il faut consulter un dermatologue ou est-ce qu'on peut s'en sortir tout seul?
Si on s'en sort pas tout seul en ayant essayé 2 shampoings antipelliculaires différents et en ayant lavé plus souvent, à ce moment-là effectivement il faut consulter.
Consultation dermatologique.
Pour voir quoi faire au mieux. Et alors pour ce qui est de la France, hein, en France, on a des produits remboursés dans la dermatite séboréique. C'est particulier. Dans beaucoup de pays, ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas le cas. Et en plus, parfois, c'est même très compliqué simplement de trouver un dermatologue. Marielle, aujourd'hui, vous lavez les cheveux à quelle fréquence?
Au moins 2 fois la semaine.
2 fois par semaine. Voilà, bah alors
il faut faire attention effectivement à pas mettre de produits gras sur le cuir chevelu. Après, vous pouvez graisser éventuellement les cheveux, la pointe des cheveux, mais ne rien mettre sur le cuir chevelu qui aura cet effet occlusif et qui va augmenter le problème.
Voilà pour ces conseils, Marielle. Bonne journée à Brazzaville. On part pour Abidjan, la Côte d'Ivoire, où l'on retrouve Bintou. Bonjour Bintou.
Bonjour docteur.
On vous écoute, le docteur Assouli est là à votre écoute.
Oui, bonjour docteur.
Bonjour.
Bon, cela fait pratiquement 3 à 4 ans que j'ai décidé d'avoir des cheveux naturels. Mais le problème est que mes cheveux n'arrivent pas à pousser normalement, ça perd de volume. Donc j'aimerais savoir quels sont les produits utilisés pour avoir beaucoup de cheveux. Et puis je signale aussi que j'ai des menstrues très très abondantes.
Donc un cycle menstruel avec des règles abondantes, et ce que vous nous dites, c'est que maintenant vous laissez vos cheveux au naturel, mais auparavant, quel traitement avez-vous infligé à votre chevelure, Bintou?
C'est le défrisant utilisé.
Longtemps? Pendant combien de temps?
Oui, longtemps, pendant à peu près au moins 10 ans comme ça.
Et vous faisiez ça maison ou vous alliez dans un salon pour le faire? Est-ce que vous savez quel produit vous utilisiez?
Non, ça à la maison, je faisais. J'achetais le produit au marché et puis je faisais à la maison.
Un produit qui avait une certaine odeur quand vous le prépariez, c'était quoi exactement produit?
Chez les vendeurs, j'ai acheté au marché.
D'accord.
Au marché, au supermarché. Bon, je ne regardais pas la composition en fait, quoi.
D'accord. Ok. Voilà, donc aujourd'hui, Bintou, qui aimerait retrouver donc une chevelure non seulement naturelle mais dense, qu'est-ce qu'on peut lui dire justement après ces années et ces années de défrisage, docteur Philippe Assouli?
Ben, le problème, c'est qu'effectivement, si les cheveux ont été lésés, que les racines, en gros, le cheveu, c'est-à-dire ce que l'on voit, la tige pilaire, correspond à la racine. Si la racine a été abîmée, le cheveu ne pourra pas donner quelque chose d'épais et de long. Donc, s'il y a eu des lésions importantes pendant longtemps, on ne pourra malheureusement pas récupérer. Ceci étant dit, après, il faut voir s'il n'y a pas autre chose. Si, par exemple, vous avez une carence en fer du fait de ces règles abondantes, ça peut être en corrigeant la carence en fer qu'on améliorera. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'autres problèmes en dessous, qu'il n'y ait pas un problème de thyroïde, qu'il n'y ait pas un problème d'alopécie androgénique, etc. Donc, si en corrigeant le fer, les choses se maintiennent, il faudra essayer de voir un médecin pour voir comment faire au mieux. Et le seul produit qui, par ailleurs, épaissirait, mais qui est un produit qui s'utilise de manière symptomatique, c'est-à-dire qu'on traite juste le symptôme, c'est un médicament qui s'appelle le minoxidil. Mais peut-être que c'est pas du tout la question ici.
Oui, Bintou, puisque vous nous parliez de votre santé à côté de votre santé capillaire, justement, essayez d'aller voir... vous avez parlé justement de ces règles abondantes à un médecin déjà en consultation ?
Non, je n'ai pas encore consulté.
Peut-être que c'est vraiment ce qu'il faudrait faire, même avant de penser à la santé de vos cheveux, penser à votre propre santé en général, aller voir un médecin, puis parler de ces différents symptômes, en parler en même temps pour voir si éventuellement il y a un lien. En tout cas, on ne peut pas établir ce lien au cours de l'émission. Et on vous souhaite une excellente journée à Abidjan. On part pour le Cameroun, la ville de Sangmélima, j'espère que je l'ai bien prononcé, où l'on retrouve Mireille. Bonjour Mireille.
Bonjour Caroline.
On vous écoute, le docteur Assouli vous écoute.
Oui, bonjour docteur.
Bonjour.
Moi j'ai fait 10 ans de défrisage. Et puis il y a 6 mois, j'ai décidé de revenir au naturel. Parce que j'ai eu à constater que mes cheveux avaient perdu leur texture et je souffrais d'alopécie de craction. Donc, comme j'ai gardé les cheveux durant 6 mois en transition, je voudrais savoir quel est le traitement que je pourrais recommencer à faire sur mes cheveux pour que je puisse retrouver la même texture et avant de couper la partie défrisée. Donc, qu'est-ce que je peux d'abord faire? Parce que là, je veux couper la partie défrisée pour commencer à garder les cheveux naturels.
Aujourd'hui, Mireille, au niveau du cheveu crépus, vous en avez une certaine longueur. Vous avez quoi? Parce qu'on a un petit peu du mal à imaginer. Vous avez une partie de repousse, une partie de repousse crépée, et puis derrière le cheveu défrisé qui est tout raide.
Oui, j'ai une bonne longueur de cheveux crépus déjà, dont la partie défrisée est en train de partir, parce que les cheveux défrisés sont se cassent.
Et quand vous parlez d'alopécie, donc de ces cheveux perdus sur votre crâne, sur votre tête, c'est à quel niveau qu'ils sont tombés?
À la devanture.
Donc vous avez le front très dégagé, ça remonte loin, sur votre front, avec une perte de cheveux devant.
Ah oui.
Voilà.
J'ai une perte de cheveux devant.
Docteur Philippe Assouli, on entend hein, ces auditrices qui abandonnent le défrisage, le tressage agressif, parce qu'on voit bien... On voit bien les dégâts sur l'apparence, sur cette chevelure.
On est en train de vivre une période assez extraordinaire, effectivement, puisqu'on est passé d'une période où il fallait essayer de se battre pour convaincre les femmes en tant que dermatologues de cesser les traumatismes, à quelque chose qui devient un mouvement assez large, que ce soit en France ou que ce soit en Afrique ou pareil aux États-Unis, où on revient à des cheveux naturels. C'est mieux pour tout, c'est-à-dire que c'est quand même beaucoup moins de dépenses d'argent, beaucoup moins de dépenses de temps, et on préserve comme ça l'avenir avec un maximum de cheveux. Et c'est d'autant mieux pour les enfants des personnes qui ont eu ces cheveux qui ont été abîmés et des alopécies. Dans le cas présent de Mireille, il y a donc une alopécie qui est une alopécie devant qui correspond à ce qui a été traumatisé et qui ne pourra probablement pas être récupéré ou bien en faible partie. Et puis le reste qui sont des cheveux qui sont abîmés et qui ne pourront pas se réparer, qui vont tranquillement être éliminés. Vous pouvez rajouter des produits pour gainer, faire que ça se casse un peu moins quand vous les coiffez, mais quoi qu'il en soit, ils ne se répareront pas. Donc c'est plutôt les nouveaux cheveux qui seront intéressants. Ça fait 6 mois, donc peut-être que les cheveux font environ 5 cm de long si on les étire. C'est là-dessus qu'il faut miser et ne pas lâcher.
Et ne pas lâcher, rester naturel, Mireille. On vous souhaite une très bonne journée au Cameroun. Un auditeur en ligne, Saloum, qui est au Sénégal, à Dakar. Bonjour Saloum.
Oui, bonjour docteur.
Docteur Assouli, à votre écoute. Allez-y Saloum.
Bon, moi j'ai deux neveux, l'un à 9 ans, l'autre 4 ans. Et une nièce de 3 ans. Les tous, ils ont des cheveux crépus, ils ont des problèmes de cheveux. Le cheveu ne pousse pas bien, quoi. J'aimerais savoir quelle est la cause de ce problème et quel est le traitement le plus efficace.
Saloum, vous dites leurs cheveux ne poussent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Leur chevelure ressemble à quoi? Il y a des endroits où il y a des trous ou ça ressemble à quoi précisément?
Il y a des endroits qui ont des trous comme ça, oui. Exactement.
Et vous savez quels produits sont utilisés sur leurs cheveux, voire même votre petite nièce qui a 3 ans, on l'a coiffée ou pas encore?
Si, on l'a coiffée.
On lui a déjà fait des tresses, on lui a déjà tiré les cheveux pour des coiffures?
Oui, oui.
Par contre, les autres neveux, des petits garçons, j'imagine, on leur coupe simplement les cheveux.
Si, c'est ça, exactement.
Alors, cette question que pose Saloum, bien évidemment, sans visualiser le problème, c'est un petit peu compliqué, docteur Assouli, parce qu'en général, la pousse chez les enfants, à 9 ans, la chevelure, normalement, elle est là.
Oui, c'est vraiment compliqué de répondre à sa question, parce que il faut vraiment porter un diagnostic et voir qu'est-ce qu'il peut faire pour que quelle peut être la raison d'une absence de cheveux. Alors, il peut y avoir des familles dans lesquelles c'est retardé la pousse, il peut y avoir des enfants chez qui ça demande un peu de temps, ou s'il y a des carences, on peut avoir des cheveux qui poussent pas bien, mais bon, il faut vraiment regarder de près et éviter d'avoir des facteurs en plus surajoutés de traction qui n'amélioreraient pas la situation, en particulier sur la petite fille. Mais là, vraiment,
sans visualiser, c'est quasiment impossible de vous répondre, hein. Saloum, peut-être aller voir un dermatologue à Dakar, montrer la tête des enfants. Je pense que c'est vraiment la meilleure chose à vous suggérer. Voilà. On vous souhaite une très bonne journée à Dakar. On va prendre une dernière auditrice. Elle est à Rennes, donc en France, en Bretagne, et c'est Mayalane. Bonjour Mayalane.
Bonjour.
On vous écoute Mayalane.
Alors moi je viens apporter un petit témoignage par rapport à ma transition vers le naturel. Donc je vis du coup en Bretagne et c'est suite à une expérience malheureuse avec un défrisant que je suis passée au naturel et que j'ai arrêté de défriser mes cheveux. C'était en 2012, j'avais fait un défrisage qui m'a complètement brûlé le milieu de la tête et les cheveux avec. Donc j'ai été voir un dermatologue, donc j'ai été suivie pendant un petit moment pour faire un diagnostic et surtout me donner des traitements et des soins. Et donc suite à cette expérience, je suis rentrée dans un parcours où je m'occupais de mes cheveux, j'ai appris à les connaître, à les manipuler, à mettre des produits à dire bio et naturel, et aussi à faire attention à la composition des produits que j'achetais en commerce. Mais la plus grande difficulté que j'ai ressentie pendant ma transition, c'était le regard extérieur des gens, parce qu'à l'époque, en plus, c'était il y a quelques années, les cheveux crépus, surtout dans la communauté déjà africaine, et même avec des amis européens, ils comprenaient pas, ils connaissaient pas les cheveux crépus, parce qu'on n'en voyait pas beaucoup dans le paysage quotidien, et donc c'était une vraie bataille, un vrai défi à relever, parce qu'on trouve que les cheveux crépus ne font pas professionnel ou que c'est pas joli.
Vous aviez droit à ce genre de commentaires ouvertement, des gens qui vous avaient des remarques?
Oui, au travail, on me disait que ça faisait pas professionnel d'avoir des cheveux crépus, et que nenni, moi j'y allais, je faisais des petits buns, je faisais des puffs, et voilà, donc j'ai assumé mes cheveux, et c'est vraiment devenu quelque chose, pour moi au quotidien, c'était une bataille, et en plus j'ai bien fait, parce qu'au fur et à mesure des soins et de l'attention que je les portais, mes cheveux ont repris vie. Ils étaient plus beaux, ils étaient vigoureux, et surtout moi ça m'apportait une satisfaction, c'était vraiment une bulle de bien-être dans mon quotidien, m'occuper de mes cheveux, faire ma routine et tout. Et après j'ai commencé aussi à en parler à mes proches qui voyaient aussi que mes cheveux devenaient plus beaux, qui poussaient, et notamment mes parents et mes cousines qui elles sont en Afrique, et bien évidemment elles avaient un regard très critique aussi, très réticent sur ce passage naturel. Et au fur et à mesure, elles ont été convaincues. Elles sont elles aussi passées au naturel. Et du coup, elles venaient vers moi pour prendre des conseils pour les manipulations et pour les produits. Et notamment ma mère, qui trouvait que mes cheveux étaient très négligés. Et elle ne comprenait pas, bien évidemment, elle est de la vieille époque. C'est elle qui a commencé à me défriser. Et elle était très critique envers moi sur mes cheveux. Et lorsqu'elle a vu que mes cheveux avaient pris une bonne santé, qu'ils étaient longs, qu'ils étaient bien bouclés, les boucles étaient redéfinie. Elle-même est assez naturelle et en fait elle utilisait les produits aussi, et donc elle me demandait il faut mettre quoi, du beurre de karité, de l'huile de coco et tout, et je trouvais que c'était une très bonne démarche de sa part et surtout un éveil de conscience, aujourd'hui, donc à Rennes, moi je fais partie d'une communauté de jeunes femmes afro-descendantes et vraiment on fait des sessions, des masterclass pour informer les jeunes femmes africaines, afro-descendantes, à s'occuper de leurs cheveux. Et on reçoit même parfois des demandes, en tout cas pour ma part, de jeunes mamans d'enfants métis qui voudraient apprendre à manipuler les cheveux de leurs filles ou de leurs petits garçons. Et je trouve que ça fait sens au fait, parce que pour moi, les cheveux, c'est vraiment la base de notre bien-être, et savoir bien utiliser les produits, savoir bien manipuler ses cheveux, on ne peut qu'avoir, c'est une forme d'approche un peu globale de notre santé, parce que bien évidemment, à côté, il n'y a pas que les cheveux, il y a aussi le bien-être que ça apporte, les produits qu'on consomme, parce qu'on se fait du bien de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais que les femmes noires et africaines soient fières de leurs cheveux et les portent au quotidien, comme toute personne, en fait, normalement constituée.
Mayalane, quand on vous entend, en tout cas, on a envie de vous suivre. Hein. Vous avez un petit potentiel pour convertir. On vous dit merci beaucoup pour ce témoignage. En tout cas, être soi-même, on a bien compris, ça fait du bien. Merci beaucoup. Très bonne journée à Rennes, Mayalane. Et on va voir une autre illustration tout de suite, docteur Philippe Assouli, puisque nous partons sans plus tarder pour la Guinée.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver, docteur Mohamed Massiré Souma, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dermatologue vénérologue au service dermatologie MST du CHU d'Oncat Conakry. Est-ce qu'il y a chez vous, dans votre service, des consultations justement dédiées spécialement à cette santé des cheveux, docteur Massiré Souma?
Oui, merci madame pour cette opportunité que vous nous offrez. Et comme vous venez de le dire, dans notre service, nous recevons des consultations pour les problèmes de cuir chevelu, effectivement. Et parce que, comme vous le savez, les cheveux crépus ont un aspect particulier. C'est surtout chez les femmes qui veulent entretenir leurs cheveux, parfois elles font des excès qui sont préjudiciables à leur santé, surtout la santé du cuir chevelu. En plus des méthodes de coiffure utilisées par ces femmes africaines qu'elles commencent parfois très tôt, et les petites filles, parfois, on les met des tresses, des nattes très serrées et parfois qui sont souvent à la longue à l'origine des alopécies de traction. Mais en plus de ces alopécies de traction, on peut également observer à cause de l'aspect serré qui parfois est responsable des folliculites. Et donc ces folliculites peuvent parfois se manifester par des pyodermites qui, souvent, quand elles cicatrisent, peuvent laisser des alopécies.
Alors, on a entendu des auditrices mettre en avant le côté cheveux naturels, notamment une auditrice en France. Est-ce que c'est le cas chez vous aussi à Conakry, docteur Massiré Souma? Est-ce que cette tendance au naturel, on l'a bien compris, qui est bien meilleure pour la santé des cheveux et du cuir chevelu, est-ce que cette tendance fait son chemin petit à petit?
Alors, heureusement, il y a certaines femmes qui ont très vite compris et qui sont en train de passer au naturel. Et donc, partout, d'ailleurs en Afrique noire, il y a cette tendance à rester naturel et qui est très recommandée et appréciée par la population. Et chez nous, effectivement, il y a des groupes de femmes qui sont en train de faire du lobbying pour ça et qui sont en train d'appeler leurs consoeurs à adapter ce cheveu naturel. Donc c'est un phénomène à la mode et qui est très apprécié chez nous.
Alors, alopécie chez les femmes en raison des coiffures et puis aussi perte de cheveux, bien évidemment, docteur Mohamed Massiré Souma, qui concerne bien évidemment aussi les hommes.
Oui, effectivement, les hommes aussi ont des problèmes d'alopécie, mais c'est chez les hommes, en général, quand c'est des alopécies acquises, souvent ils consultent pour ça. Mais c'est quand c'est des alopécies androgénétiques, parfois c'est souvent synonyme d'aisance. Un homme qui a une calvitie avec cette calvitie, quand c'est bien circonscrit, on pense qu'en général, que c'est des hommes qui ont un certain niveau d'aisance. Et donc, ça ne pose pas de problème. Mais c'est surtout les alopécies acquises qui posent souvent des problèmes. Et pour cela, ils consultent pour cela.
Avec aussi des problèmes spécifiques chez les hommes, qui concernent, par exemple, tout le problème des poils incarnés, docteur.
Oui, effectivement. Donc, c'est un phénomène qui est fréquent dans la race, chez les les hommes à cheveux crépus. Et donc, les poils incarnés qui sont souvent responsables des pseudo-folliculiques de la barbe, c'est une spécificité de la peau noire. Nous en recevons beaucoup dans nos consultations. Et parfois même, ces poils incarnés qui entraînent ces pseudo-folliculiques peuvent parfois évoluer vers des lésions kéloïdiennes qui sont parfois très exubérantes et qui nécessitent parfois des interventions spécifique. Mais aussi, c'est au niveau du cuir chevelu, compte tenu du rassage utilisé souvent par les hommes aux cheveux crépus, peuvent développer des folliculites fibrosantes de la nuque, qui était autrefois appelée acné kéloïdienne de la nuque, et qui est très fréquent dans la race noire, et surtout chez les hommes avec aux cheveux crépus, et qui constitue souvent des problèmes de motifs de consultation fréquents.
Merci. Merci beaucoup, docteur Mohamed Massiré-Souma. Je rappelle que vous êtes dermatologue vénérologue au CHU d'Onca de Conakry.
RFI à Conakry, 89.9 FM.
On va conclure notre échange, docteur Philippe Assouli. Dernière partie de cette émission, toujours la santé des cheveux. On entend dire, j'aime pas quand on dit « on » dans cette émission, mais je le fais quand même de temps en temps, on entend dire que le stress, c'est mauvais pour le cuir chevelu. Est-ce que c'est vrai ?
Alors, pour le cuir chevelu, si on est stressé, on peut transpirer davantage, on peut avoir un peu plus de sébum, et ça peut modifier la flore du cuir chevelu, faire qu'il y aura plus de pellicules ou des démangeaisons. Mais c'est pas ça qui déclenchera une chute de cheveux. Donc, deux problèmes différents.
Et par exemple, pour un état pelliculaire, on dit état pelliculaire associé à des moments de stress, à des moments un petit peu compliqués dans la vie. Est-ce que c'est vrai aussi ?
Il n'y a pas d'études qui nous permettent d'affirmer cela, mais on le constate de manière effective. C'est-à-dire que les états pelliculaires vont disparaître pendant l'été, à la fois parce que éventuellement on va être avec les cheveux plus aérés, parce qu'on va se baigner ou autre, et reviennent à la rentrée lorsqu'il y a une période plus stressante, plus difficile. Là encore, lorsque le stress est plus important, effectivement, la flore va changer. La flore du cuir chevelu est plus compliquée encore que la flore du tube digestif. C'est un débat qui commence à se soulever, où on fait beaucoup de recherches, parce que c'est sûrement des voies de thérapeutiques ou d'envisager un certain nombre de pathologies d'une façon complètement différente de ce qu'on faisait auparavant.
En quelques mots, tout à l'heure, on a parlé de la carence en fer qui peut avoir une incidence sur la santé des cheveux. Est-ce qu'il y a d'autres aliments ou d'autres nutriments essentiels justement pour la vitalité capillaire ?
L'essentiel, c'est de bien manger.
Manger de façon équilibrée, voilà.
Il
n'y
a aucun produit qui sera utile en complément alimentaire. Donc, je pense qu'il ne faut pas prendre de complément alimentaire. C'est inutile, sinon parfois toxique. Et s'il y a une vraie carence avérée, en fer par exemple, à ce moment-là, on complète. Il faut peut-être se méfier. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui prennent du kaolin et qui en mangent et qui peut peut-être diminuer aussi l'absorption du fer ou créer des carences. Ça, il faut se méfier de ce fait-là. Il faut se méfier des régimes alimentaires mal foutus dans lesquels on va perdre, reprendre, etc.
Respectif.
Ça, c'est des sources d'eux. Mais sinon, il n'y a pas d'aliment qui va permettre d'avoir des beaux cheveux, alors qu'à l'opposé, on aurait l'inverse.
Comme on le dit souvent, il n'y a pas d'aliment miracle. Hein. Merci beaucoup, merci d'être venu dans les studios de RFI pour répondre à toutes ces questions. Merci docteur Philippe Assouli. Je rappelle que vous êtes dermatologue, spécialiste du cuir chevelu au centre Saboureau de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. C'est Toussama Ké, Ophélie Lassène, Didier Bleu et Laurence Snow aujourd'hui. Demain, journée mondiale de la maladie de Parkinson. Nous parlerons de cette maladie neurodégénérative. Bien sûr, on attend vos questions, vos témoignages. 33 1 84 22 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Sunu Assurance. Comme nos clients dans plus de 14 pays, profitez d'une assurance santé toute option où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sunu Assurance, notre métier, l'assurance.